Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain. Ce soir, le monde penche-t-il à l'est ? Avez-vous remarqué, depuis quelque temps, la Terre penche du côté du soleil levant ? Une inclinaison à peine perceptible, invisible à l'œil nu, mais pourtant quelque chose a changé. Le monde n'est plus tourné vers l'Occident. Le week-end dernier a parfaitement illustré cette tectonique des plaques. Au sommet du G7 au Canada, il n'a été question que de désunion. Donald Trump finissant par désapprouver la déclaration finale commune que les participants avaient réussi à signer au forceps. Presque au même moment en Chine, l'organisation de coopération de Shanghai, contrastée par l'unité affichée par ses leaders, en particulier Xi Jinping et Vladimir Poutine. Alors la montée en puissance de la zone asiatique n'est pas nouvelle, mais jusqu'à présent il était surtout question de recentrage ou plutôt de rééquilibrage. Avec Trump au pouvoir, le repli des États-Unis se confirme, le camp occidental est fragilisé, la Chine et la Russie deviennent de plus en plus centrales dans la marche du monde. Alors s'agit-il d'un phénomène durable? Et si oui, quel est le bon cadre institutionnel pour accueillir ce bouleversement? Le monde penche-t-il à l'est? C'est le sujet du soir, en compagnie ce soir d'un seul des membres de notre club, mais pas n'importe lequel, Brice Couturier, n'est-ce pas ? Bonsoir Brice. Voilà, alors on va ouvrir votre micro, ce sera mieux si on vous entend. Le tour du monde des idées, c'est du lundi au vendredi à 11h53 sur France Culture. On va réparer tout ça, on finira par vous entendre, mais vous êtes bien là. On peut également vous lire, oui. Si on ne peut vous entendre, dans le magazine Le Point. Pour nous accompagner ce soir, Isabelle Lasserre, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, vous êtes responsable des questions de diplomatie au Figaro. Et puis, bah, comme chaque été, et ce sera encore le cas cet été, on va pouvoir vous entendre sur France Culture. Ce sera au mois de juillet. Ce sera quand et ce sera pourquoi ?
Le samedi et le dimanche pour les magazines du week-end.
À quelle heure ?
12h40, si ma mémoire est bonne.
Elle doit l'être. Troisième invité, Jean de Glignasti, bonsoir.
Bonsoir.
Diplomate, vous avez été ambassadeur de France en Russie de janvier 2009 à octobre 2013. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et vous avez publié « La diplomatie au péril des valeurs », c'était aux éditions de l'Inventaire. Alors je voudrais qu'on commence par ce contraste assez saisissant qu'on a pu observer le week-end dernier, même si les jours ne coïncidaient pas entièrement. Mais en tout cas, il y a eu les 7 et 8 juin, le G7 donc, qui a montré une forte division de ses membres, c'était au Québec. Et puis, les 9 et 10 juin, l'organisation de coopération de Shanghai, avec ses 8 membres, dont la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, et puis les anciennes républiques soviétiques, qui leur ont montré leur unité. Contraste saisissant, Jean de Glignasti. Mais est-ce qu'il était surtout saisissant parce qu'il y avait cette concordance dans le calendrier, ou bien est-ce qu'il traduisait un phénomène beaucoup plus important et beaucoup plus profond ?
Alors, il est sûr que depuis 3 ans, un certain nombre de paradigmes qui fondaient l'analyse de la situation internationale se sont effondrés. C'est vrai en particulier pour la France. Nous n'avons plus ce parapluie américain, en tout cas l'OTAN n'est plus ce qu'il était. La Russie, en effet, dérive vers l'Asie. Notre Europe puissance est bien malade. Et donc, nous n'avons pas beaucoup de repères en ce moment. En ce qui concerne la coopération de Shanghai, elle existe déjà depuis une dizaine d'années. Elle représente pratiquement 40% du PIB mondial. Et probablement à peu près autant, même plus, de sa population. C'est un organisme qui existait, mais qui paradoxalement, à mesure qu'il s'élargit, devient moins pertinent, moins puissant. Ils ont fait rentrer, par exemple, récemment le Pakistan et l'Inde. Ce sont deux puissances qui s'annulent en quelque sorte. Et là, l'Iran avait gratté à la porte, et les Chinois n'étaient pas très chauds pour faire rentrer l'Iran dans cet organisme. Donc, en fait, il est naturel que l'Asie s'exprime, qu'elle commence à se cristalliser un tout petit peu, mais c'est pas si simple autour de la Chine. Mais à mon sens, il n'y a pas vraiment de très grands changements. En revanche, le vrai changement, c'est le bouleversement en Occident.
Alors peut-être ne faut-il pas trop exagérer et en tout cas l'union affichée dans le cadre de cette organisation de la coopération de Shanghai, Isabelle Lasserre. Et aussi la désunion au sein du G7, ou bien est-ce que quand même cette dernière-là est véritablement un bouleversement qui est en marche, en particulier depuis que Donald Trump est au pouvoir ?
Il y a un symbole qui a été vraiment... C'est une image, c'est deux images en fait. Le G7 se termine par une photo représentant les membres des pays européens notamment, avec une Angela Merkel très en colère et appuyée sur le bureau avec l'air de menacer Trump, et Trump assis sur sa chaise, les bras croisés, comme un enfant boudeur qui ferait un caprice. Et l'autre image, c'est celle du sommet de Shanghai qui se termine par une poignée de main très chaleureuse entre Vladimir Poutine et le président Xi. Quand on a dit ça, c'est vrai que il y a un vrai, on parlera des faiblesses de ce déplacement, mais il y a un vrai déplacement, à mon avis, à trois niveaux. Au niveau économique, la puissance économique maintenant est en Asie, c'est le continent qui, tiré par la Chine et par l'Inde, est le plus dynamique. Il y a un changement, il y a un glissement aussi, à mon avis, au niveau politique, c'est-à-dire que l'Occident a vécu sur une illusion depuis la fin de l'URSS et la chute du mur de Berlin, et depuis la fin de l'histoire annoncée par Fukuyama. Cette illusion, c'était la démocratie va s'imposer au monde entier parce que c'est le système le plus génial et que tout pays devrait normalement l'adapter. On s'aperçoit depuis quelques années que c'est pas vrai. C'est-à-dire que il y a plein de pays qui considèrent que la démocratie a beaucoup de faiblesses, qu'elle ne permet pas de tenir les pays et dont ils ne veulent pas de ce système. Donc il y a un glissement. Et le troisième glissement, c'est un glissement militaire. C'est-à-dire que l'Europe se désarme depuis très très longtemps. Bon, on assiste depuis les attentats de 2015 à un tout petit sursaut dans certains pays, notamment la France et l'Allemagne, mais grosso modo, le pourcentage du PIB des Français, des États européens est de 1,2 ou 1,25%. C'est sans commune mesure avec les montants faramineux, je mets les États-Unis de côté là, hein, les montants faramineux que dépensent des pays comme la Chine et la Russie pour vraiment revenir sur la scène internationale et militaire.
Mais est-ce que vous diriez que c'est un mouvement irrésistible auquel sont confrontés les Occidentaux et en particulier les Européens, ou bien est-ce qu'ils auraient les moyens justement de résister quand même à cette tectonique des plaques ?
Je ne sais pas s'ils ont les moyens de résister. J'observe, moi, qu'il y a un autre glissement à l'Est. C'est peut-être pas tout à fait votre sujet, mais pour moi, le glissement à l'Est, il est aussi au sein de l'Europe. On le voit là, par la crise des migrants, par exemple. C'est-à-dire que là, pareil, les pays d'Europe occidentale, depuis des années, disent aux pays de l'Est, c'est le modèle multiethnique qu'il faut imposer, c'est le meilleur modèle, etc. Il y a eu une résistance, on a cru qu'on allait pouvoir la canaliser. Et en fait, non, c'est les pays de l'Est qui sont en train de prendre le pouvoir et en train d'imposer leur agenda. Ce basculement est aussi en Europe.
Brice Couturier, est-ce que vous observez, vous aussi, ces mouvements-là qui viennent d'être décrits par Jean de Glignasti et par Isabelle Lasserre ?
Mais bien sûr. L'ordre libéral multilatéral, si vous voulez, sous leadership américain, celui sur lequel on a vécu jusqu'à présent, c'était un ordre relativement rassurant, fondé sur la mondialisation et avec une garantie ultime qui était celle des États-Unis. Garantie militaire, des normes commerciales, les normes juridiques, c'était celle des États-Unis qu'ils imposaient. Et il y avait une certaine pacification du monde sous l'effet du bon commerce et du droit international. Or, on a maintenant au pouvoir à Washington un homme qui est décidé à démanteler cet ordre créé par ses prédécesseurs, ce qui est assez paradoxal. Parce que le point de vue de Donald Trump, c'est America First, c'est-à-dire que finalement, ce système de normes juridiques, d'agences internationales encadrant le développement du commerce international et la coopération internationale, il veut le mettre en pièces pour privilégier à la place des relations bilatérales d'État à État, sachant que la puissance américaine n'est plus ce qu'elle était, mais que dans le cadre d'un échange d'État à État, il a encore le pouvoir, ce qu'il fait par exemple avec le Mexique, mais ce qu'il est aussi en train de faire avec l'Union européenne. Moi, ce que je constate très concrètement, si vous voulez, c'est que les Américains ont perdu déjà en mer de Chine méridionale. J'ai eu là une note formidable d'un chercheur indien qui le montre de manière assez détaillée, Brahma Chelane, qui montre que depuis que Obama, parce que l'affaiblissement américain ne date pas de Donald Trump, finalement, moi je pense que Donald Trump, c'est une espèce de syndic de faillite, si vous voulez. C'est le syndic de faillite de la faillite américaine. Mais ça a commencé avec Obama, évidemment. À partir du moment où Obama a laissé les Chinois installer en toute impunité sur des terres, des îlots qui parfois ne leur appartenaient même pas, des bases militaires artificielles, il a ouvert une porte dans laquelle la Chine s'est engouffrée. Aujourd'hui, la Chine contrôle réellement, et les Américains ne le font pas, la région asiatique, au point d'inquiéter les Indiens, parce qu'aujourd'hui, on pense que la puissance militaire navale chinoise peut se déverser du côté de l'océan Indien. Donc les alliés des Américains en Asie en particulier sont extrêmement inquiets. Et alors évidemment la pantalonnade donnée par Trump allant donner sa bénédiction à un dictateur communiste héréditaire dirigeant un pays de 25 millions d'habitants, enfin, c'est grotesque. Mais évidemment les Japonais, les Coréens, les Taïwanais sont extrêmement inquiets de voir aujourd'hui dans quel état de dérision est la puissance américaine.
Alors, je retiens cette expression à propos de Trump, un syndic de faillite. C'est justement la question que je voulais vous poser, Jean Dobliniski, par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'affaiblissement du camp occidental. Est-ce qu'il faut y voir simplement un affaiblissement qui serait transitoire, un mauvais moment à passer? Donald Trump ne sera pas au pouvoir indéfiniment. Une fois qu'il sera parti, peut-être que les États-Unis reviendront dans le jeu. Ou est-ce qu'on est là aussi dans un phénomène de fond qui n'a pas commencé avec Trump, mais qui avait déjà été entamé par ses prédécesseurs?
Ouais, moi, je crois que surtout, il y a un voile qui est tombé. Tous les prédécesseurs de Trump avaient dit, à leur façon, America first. On avait parlé de la nation indispensable. Je crois que c'était Obama qui avait dit ça. Chacun de ces présidents poursuivait les intérêts des États-Unis. Alors, les uns le faisaient de façon, j'allais dire, plus polissée, à travers le jeu de la société internationale, à laquelle nous-mêmes, nous avions pris goût. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que nous avons oublié de défendre nos propres intérêts, et nous avons oublié que les Américains ne font que défendre les leurs. Donc, je ne suis pas sûr que le retrait américain manifeste, un affaiblissement aussi net de la puissance américaine. Ils ont décidé de se retirer de l'Asie parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas y être partout. Que Trump fasse des bêtises, c'est évident. Mais il y a un réajustement. L'Amérique a connu, et je crois que Isabelle Lasserre le sait mieux que moi, mais a des balancements comme ça, des retours à l'isolationnisme. N'oublions pas que Wilson, après avoir fait imposer les dix points et l'autodétermination des peuples et de nouveaux critères de droit international, s'est retiré purement et simplement de la Société des Nations et, dans un espèce de sursaut d'isolationnisme, a laissé les Européens se battre entre eux.
De la puissance américaine, peut-être pas, Jean Dobliniski, mais de ce qu'on appelle le camp occidental, de son unité, de son homogénéité et de sa force politique, c'est-à-dire
c'était une illusion.
Autour de ce camp-là qui a été battu.
Le camp occidental, c'était quoi ? C'était l'Amérique. C'est tout. C'est-à-dire, on a rameuté un certain nombre de gens auprès de valeurs qui étaient évidemment importantes, comme la démocratie et autres. Sur cette base-là, on a construit l'OTAN, qui était en fait sous la direction américaine, qui l'est encore. On a construit un certain nombre d'organismes ou d'institutions qui, en fait, manifestaient, parce que nous le voulions bien ou que nous n'avons pas compris exactement ce qui se passait, la prédominance américaine. Cette période, je ne dis pas qu'elle change, simplement maintenant, c'est plus clair. On voit que les Américains défendent leurs intérêts et à l'Europe et à nous de défendre les nôtres.
Isabelle Lasserre.
Non, moi je crois que ça voulait vraiment dire quelque chose, l'alliance entre l'Europe et les États-Unis. Je pense qu'on peut pas oublier assez facilement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant très très longtemps, les pays européens et les États-Unis ont défendu des valeurs communes. Il y a effectivement une parenthèse qui a commencé avec Obama et qui se poursuit avec Donald Trump. Rien ne dit qu'elle se poursuivra dans 15 ans, parce que en général, la réalité se charge très très rapidement et très fortement de rappeler les grandes puissances qui ont des velléités isolationnistes à rompre avec leurs envies. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense que ça peut être une chance pour l'Europe. L'Europe ne peut pas se projeter en Asie comme ça, parce que c'est beaucoup trop loin, et les menaces de l'Europe, elles sont soit au sud, pour les pays du sud de l'Europe, c'est plutôt les migrations, et puis aussi le terrorisme, et pour les pays du nord et de l'est de l'Europe, la menace, c'est la Russie.
Quand on parle de pivot asiatique, par exemple, aux États-Unis,
y a pas tellement
le pivot asiatique pour l'Europe, c'est plus compliqué du fait de la géographie.
Il n'y a pas de menace directe européenne, pour l'instant, de la part de la part des pays asiatiques. Un peu à part la Corée du Nord en est une, mais elle est quand même beaucoup plus lointaine. Par contre, ce que peut provoquer cette espèce de rupture à la fois du lien transatlantique qui est en ce moment poussé par Trump, et à la fois parce que c'est ça aussi, il est en train de briser l'ordre mondial qui reposait depuis 1945 sur le multilatéralisme. Ça peut faire prendre conscience à l'Europe qu'il faut enfin qu'elle prenne son destin en main, et notamment qu'elle s'arme et qu'elle ait une force militaire qui puisse la rendre totalement autonome.
Quand on brise un ordre mondial, Brice Couturier, est-ce que ça crée derrière du désordre, ou eh bien est-ce que ça crée un nouvel ordre mondial? Et si oui, à quoi il ressemble aujourd'hui, en tout cas, à quoi il commence à ressembler, ce nouvel ordre mondial?
Écoutez, l'ancien ordre, en tous les cas, on le connaissait, c'était un ordre libéral, c'était un ordre qui cherchait à éviter les affrontements guerriers, et qui est parvenu. N'oublions pas qu'on a vécu une période relativement pacifique depuis 1945. Et cet ordre pacifique était garanti par la puissance hégémonique des États-Unis. Cet ordre avait un autre intérêt, c'est qu'il permettait le développement de la démocratie. On l'a rappelé tout à l'heure, en 1989, exactement c'est 90, Fukuyama pouvait prédire que la démocratie était devenue l'horizon inéluctable de tous les peuples du monde. Et on a pu vivre un moment sur cette illusion qu'en effet, notre modèle de démocratie libérale, pacifique par ailleurs, allait s'étendre au monde entier. Maintenant, nous avons compris que nous sommes rentrés dans une autre phase de l'histoire, et cette autre phase de l'histoire, elle vient du fait que la puissance hégémonique du XXe siècle a été les États-Unis d'Amérique, que cette puissance était intéressée au développement de la démocratie à travers le monde. Aujourd'hui, cette puissance est affaiblie, et du coup, on voit bien que la démocratie recule. Regardez les travaux de Yasha Mung sur cette affaire, dans la dernière livraison de Foreign Affairs, c'est très évident. Le nombre d'États démocratiques était beaucoup plus important il y a 15 ans qu'il ne l'est aujourd'hui, et à l'intérieur même des États démocratiques comme les nôtres, les mouvements populistes, les leaders autoritaires sont en train progressivement de prendre le pouvoir, donc la démocratie recule. C'est une très mauvaise nouvelle. Il y a des gens qui se réjouissent de voir l'affaiblissement américain et la montée en puissance des autocraties russes et chinoises. Ils font un bien mauvais calcul, parce que derrière cette montée en puissance de ces autocraties autoritaires, il y a la victoire des États autoritaires sur les États démocratiques. Donc il y a vraiment beaucoup à regretter dans la désagrégation de l'ordre ancien.
Il y a des raisons de s'inquiéter de ce glissement vers l'Est et de cette montée en puissance continue de la Russie et surtout de la Chine, Jean de Glignasty.
En ce qui concerne la Chine, de toute façon, sa puissance s'affirme par elle-même, et elle cristallisera les choses, et c'est un rééquilibrage, j'allais dire, naturel, et on retrouve l'histoire ancienne. En ce qui concerne la Russie balancera toujours entre l'Europe et la Chine, et donc...
La poignée de main, il ne faut pas la surinterpréter entre Poutine et Xi Jinping, parce que on regarde l'histoire, c'est quand même assez spectaculaire ce qui s'est passé.
Mais ce n'est pas la première fois. En mai 2014, ils ont signé des accords sur le gaz. Il n'y a pas d'amour perdu, mais il y a des intérêts communs. Et puis, il est de fait que les Russes se sentent un peu exclus pour des raisons qu'on comprend de l'Europe. Et donc, ils balancent. Dans toute l'histoire russe, il y a eu un balancement entre l'Est et l'Ouest. En revanche, il y a une chose qui est effectivement juste et qui a été dite, c'est que il y a un certain nombre de valeurs qui fondaient l'organisation des relations internationales qui ont sauté. Pourquoi elles ont sauté? Tout simplement parce que ces valeurs n'étaient pas véritablement reconnues par une grande partie ce ne sont pas les leurs, par les BRICS, par ces pays-là. On faisait pression un peu dans les organisations internationales pour leur faire voter la Cour des droits de l'homme, etc. Mais c'était très artificiel. On voyait comment ça se passait avec les ONG, notamment, qui plaidaient pour l'Afrique. Ces valeurs ne sont pas les leurs, et il faudra reformater un monde que nous ne dominons plus. Et on le formatera avec eux. Il faudra en passer par là.
Alors, ces valeurs ne sont pas les leurs, peut-être pas toutes. En tout cas, il y a un certain nombre de principes qui sont aujourd'hui défendus, notamment par la Chine. Alors, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est simplement pour faire de la politique? Mais souvenez-vous, janvier 2017 à Davos, Xi Jinping qui se retrouve à défendre le libre-échange et à défendre le multilatéralisme. Brice Couturier, quand j'évoque ce souvenir récent, je vous vois sourire. C'est-à-dire que je veux dire que... Il y a un discours pour l'extérieur qui n'est pas forcément identique de celui qui est mené à l'intérieur.
Non, c'est vrai que les Chinois ont l'ambition de devenir les artisans d'un redéploiement de la mondialisation. C'est extraordinaire, c'est le paradoxe formidable de voir un État communiste nous prôner le libre-échange et expliquer que le libre-échange est la solution à nos problèmes, alors que le président des États-Unis, de son côté, nous prône la guerre commerciale à outrance, y compris, et c'est plus grave, la guerre commerciale contre ses propres alliés. Et moi, c'est ça que je trouve le plus déplorable dans cette affaire, c'est que ce que peut redouter l'Europe, c'est qu'un règlement des différends commerciaux sino-américains se règle au détriment des Européens, et on va le voir très vite, parce que c'est en train de se produire.
Ça peut peut-être conduire justement les Européens et les Chinois à avoir une forme d'alliance objective face aux États-Unis, non ?
Ce qu'on espère, c'est plutôt que l'Europe devienne enfin une puissance commerciale qui puisse parler d'une seule voix, une puissance militaire qui puisse parler d'une seule voix, et qu'elle tienne tête à ces nouveaux empires commerciaux que sont les États-Unis et la Chine. Et évidemment, on ne va pas s'allier avec les Chinois. Ils ont un système politique et commercial et une façon de gérer leur économie qui est très très différente de la nôtre. Ils ont des industries protégées, ils ont des investissements privilégiés, ils jouent pas du tout d'après les règles du jeu qui sont les nôtres.
On ne va pas s'allier avec les Chinois, Isabelle Lasserre, et pourquoi pas finalement ?
Je sais pas, mais par contre sur la question du multilatéralisme, moi ce que je trouve intéressant, c'est que les Russes sont en train de faire la même chose. Là, je parle plutôt au niveau politique et militaire. Regardez ce qui se passe, c'est très intéressant en Syrie. Retrait américain, avancée de toutes les puissances régionales, donc notamment la Russie, l'Iran et la Turquie, et la Russie est en train d'essayer de recréer, bon, c'est ce qui se passe à Shanghai, hein, mais c'est aussi ce qui se passe par exemple à Astana, avec la tentative de la Russie de créer un groupe, une conférence au service de la paix en Syrie, qui soit concurrente du processus chapeauté par les Nations Unies à Genève, et qui réunit la Russie, l'Iran et la Turquie. Là où ça bloque, et là où il y a une limite, c'est qu'en fait la Russie a réussi à avoir un succès au niveau semi-militaire en Syrie en organisant des zones de désescalade, mais pas plus que en fait les Occidentaux à Genève avec l'ONU. Elle n'a réussi à transformer son succès militaire, qui est un vrai succès militaire en Syrie, en succès politique. Donc c'est aussi les limites du multilatéralisme russe.
Mais l'idée, c'est vraiment, Isabelle Lasserre, de créer un cadre concurrent.
L'idée, c'est à mon avis, c'est de concurrencer.
Parce qu'on pourrait aussi considérer que ça part d'un constat, qui est celui que le multilatéralisme, en tout cas les institutions du multilatéralisme telles qu'elles existent aujourd'hui, ne fonctionnent plus, et qu'il est indispensable d'en créer d'autres. Et quitte à les créer, autant que ce soit finalement ceux qui peuvent avoir la main qu'ils fassent.
Oui, à mon avis, du côté russe, il y a deux arguments. Le premier argument, c'est tout ce qui peut faire revenir la Russie sur la scène internationale et sur le devant de la scène internationale et à égalité avec les États-Unis est bon à prendre. Et la deuxième chose, et là la Russie le partage avec l'Iran, avec la Turquie, avec la Chine, c'est une volonté de déconstruire un ordre qui depuis 1945 a été dominé par les Occidentaux et qu'ils ont envie de contester pour des raisons économiques, politiques, militaires.
Jean Dobliniasty.
Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois que la préoccupation principale des Russes en Syrie, c'était de maintenir un État syrien qu'ils considéraient comme la meilleure barrière contre les dérèglements. L'expérience irakienne l'avait montré, les dérèglements islamiques. Et donc ils ont mis le paquet pour sauver l'État syrien, avec lequel ils n'avaient pas d'affinité particulière, mais qui leur avait donné une base, enfin des installations, et qui était un point d'appui pour eux. Et donc ça n'allait pas plus loin que ça. Ils n'avaient pas, en soutenant Assad, l'idée de dynamiter l'ordre international. Je ne crois pas du tout. Ensuite, sur la question de la négociation d'Astana et tout cela, les Russes ont toujours dit qu'Astana devait finalement, s'il avait eu un résultat, il n'y en a pas eu de beaucoup, ranger ça sous la rubrique de l'ONU. Ils l'ont toujours dit depuis le début. Peut-être qu'ils n'avaient pas ça en tête, mais ils n'avaient aucun intérêt à ne pas faire entériner les négociations d'Astana par le Conseil de sécurité où ils sont. Et un des résultats de la visite de Monsieur Macron, de notre président à Saint-Pétersbourg, ça a été justement de faire la synthèse entre ce qu'on appelle le small group, c'est-à-dire en gros les Occidentaux, hein, les Français, les Américains, les Britanniques et les Jordaniens, c'est-à-dire une approche, la nôtre enfin jusqu'à présent, et l'approche russe, qui montre bien qu'il y a moyen d'essayer de mettre ça d'accord, en accord, pour l'apporter au Conseil de sécurité et essayer de faire la paix. Donc je ne crois pas qu'il y ait là dynamitage de l'ordre international, je crois que ça se situe encore dans le cadre traditionnel des relations internationales.
Peut-être pas du côté de la Russie, mais du côté de la Chine, il y a quand même un certain nombre nombre d'initiatives qui sont prises. La Banque Asiatique d'Investissement, par exemple, qui est censée concurrencer en partie la Banque Mondiale. Il y a des forums Chine-Afrique, voilà, Chine avec les pays arabes. L'agent de Glignasti, on voit bien quand même qu'il y a des initiatives qui consistent à créer d'autres structures, au moins en parallèle. Alors, est-ce que ça veut dire quoi que la puissance chinoise, finalement, fait ce qu'on attendait d'elle depuis quelque temps, c'est-à-dire elle prend enfin ses responsabilités à la hauteur justement de ce qu'elle, du poids qu'elle représente. Est-ce que c'est ça ?
Mais bien sûr, je crois que nos instruments d'analyse ont été faussés. On a cru que la diplomatie, c'était d'imposer la démocratie partout dans le monde et les valeurs et tout ça, etc. Non, la diplomatie, c'est l'exercice de la puissance de la façon la plus raisonnable possible. C'est ce que les Chinois font et ils ont la capacité à la fois financière, industrielle, militaire pour bâtir une zone d'influence et à nous de négocier pour faire en sorte que ça se passe le plus pacifiquement du monde. Mais la Chine, maintenant, est une superpuissance, c'est clair.
Brice Couturier.
Je voudrais faire la promotion d'une note de l'IFRI qui vient de tomber, qui s'appelle « Vladimir Poutine et la politique étrangère russe, entre aventurisme et réalisme ». Ça vient de sortir parce que c'est daté du mois de juin. Et cette note, je vais essayer de la résumer très brièvement, même si elle fait plusieurs dizaines de pages. Elle nous montre quoi ? Elle nous montre que le projet de la Russie, c'est un projet contre-hégémonique qui s'appuie sur une alliance privilégiée avec le challenger du moment, qui est évidemment la Chine. Mais que c'est une alliance très fragile, d'une part, et que c'est très aventuriste. En réalité. Parce que la force de la Russie, c'est une force négative. Elle provient de quoi ? Elle provient de la désagrégation de l'ordre libéral du monde, accélérée par Trump à Washington en ce moment. Par ailleurs, évidemment, elle profite de la médiocrité du leadership américain incarné par le même personnage et du désordre mondial. Mais, dit cette note, et je résume encore, ce n'est qu'un pouvoir de nuisance. On a affaire avec Trump, avec Poutine, simplement un fauteur de troubles qui saute sur les occasions et sur les opportunités. Mais l'idée que la Russie pourrait devenir l'équivalent des États-Unis, son PIB est de l'ordre de 10 fois inférieur à celui des États-Unis et c'est pas prêt de changer, ou de la Chine, est une illusion de la part de Poutine. Et par ailleurs, ce que cette note montre assez bien aussi, c'est que le caractère agressif 19e-iste du... En fait, le rêve de Poutine, c'est le concert des puissances dans le genre 19e siècle, où il y aurait la Russie, la Chine, les États-Unis, peut-être l'Allemagne et la France, qui se partageraient comme ça la responsabilité de l'ordre mondial. Mais c'est un rêve du 19e siècle, c'est complètement périmé, parce que par ailleurs, ce que Poutine a perdu, c'est le soft power. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Aujourd'hui, la Russie est détestée par les Ukrainiens à cause de l'agression dans le Donbass et l'annexion de la Crimée. La Russie fait peur à un certain nombre de ses petits voisins et elle a joué Regardez, on vient de parler de la Syrie. Elle est intervenue en Syrie sur le plan militaire avec beaucoup d'efficacité, mais sur le plan diplomatique, on vient de le dire, les deux interventions précédentes le montrent, sur le plan diplomatique, elle n'a absolument rien réglé sur le fond. Donc finalement, sur le plan du soft power, la Russie n'est absolument pas vainqueur.
Mais à vous écouter, Brice Couturier, on a l'impression qu'il y a une volonté de leadership mondial qui serait du côté de la Russie et que la Chine, quelque part, se contenterait simplement d'accompagner la puissance russe. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est pas exactement l'inverse ?
Ah ben, c'est ce que je pense, oui, bien sûr.
C'est quand même la Chine.
La Russie colle, si vous voulez, au challenger parce que c'est une puissance révisionniste, essentiellement. Puissance révisionniste parce qu'elle pense que l'ordre, elle n'a pas tort du reste, l'ordre international qui avait été bâti par les Occidentaux à partir de 1989 était défavorable à la Russie. Et Yeltsin en a payé le prix. C'est très clair. Donc Poutine est un revanchard et quelqu'un qui cherche à remettre en question l'ordre international. Et il est appuyé par les événements, puisqu'on a affaire à Washington à quelqu'un qui pense exactement la même chose. D'ailleurs, savoir jusqu'où va la connivence entre les deux hommes, comme vous savez, serait assez intéressant. L'histoire le montrera probablement dans quelques années.
Et la Chine, comment est-ce qu'il faudrait la qualifier en tant que puissance, Isabelle Lasserre ? Est-ce que c'est une puissance hégémonique, en tout cas à volonté hégémonique ? C'est une puissance régulatrice qui, comme je posais la question tout à l'heure à Jean de Glignasti, c'est-à-dire qui finit par prendre ses responsabilités parce qu'il y a une place à prendre et qu'il faut bien assumer ses responsabilités à un moment donné.
Ses responsabilités, pour l'instant, elle ne les prend guère vis-à-vis de la Corée du Nord, par exemple, hein, qu'elle a toujours considéré comme un espèce d'outil qui pouvait finalement être mis en face des États-Unis pour s'opposer aux États-Unis, etc. Et finalement, la Chine s'est toujours contentée du statut nucléaire de la Corée du Nord. Donc là, elle prend clairement pas ses responsabilités. Quant à son attitude en mer de Chine, c'est une attitude à visée hégémonique, clairement. Puisqu'elle s'étend, elle construit des polders, elle construit des aéroports clandestins, elle annexe, elle fait cette espèce de boucle. Donc c'est une attitude à visée hégémonique qui pour l'instant est restreinte et contrainte, mais qui est en train de gonfler. La marine chinoise, on rigole toujours en disant ouais, les bateaux chinois, c'est pas encore ça, ils sont moins bien que les autres, que les nôtres, ok. Mais je crois qu'ils ont triplé leur nombre de sous-marins en quelques années. La marine chinoise commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et maintenant, elle commence à aller, elle sort de ses mers. Je crois qu'elle est même allée jusqu'en Méditerranée l'été dernier. Donc elle arrive. Donc non, c'est clairement une puissance hégémonique. Et la question qu'on se pose, c'est vers qui sera-t-elle dirigée en premier ? Est-ce que ce sera Taïwan, par exemple ?
Jean de Lignasty ?
Oui, je suis tout à fait d'accord sur la Chine, mais je pense que c'est inévitable et que c'est l'affirmation d'une puissance et il va falloir négocier avec ça. En ce qui concerne la Russie, je suis d'accord avec l'idée que la Russie est une puissance révisionniste, mais c'est une puissance modérément révisionniste. C'est une puissance faible, son PIB est inférieur à celui de l'Italie, on l'a assez dit. Sur le budget militaire russe est inférieur, largement inférieur à la somme du budget français et allemand, un dixième du budget américain. Il va être en baisse cette année, d'ailleurs, et il était déjà en baisse en 2017. Donc, les ambitions sont relativement limitées. Qu'est-ce qu'elle veut, la Russie, en fait ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Parce qu'elle a déjà perdu. Elle voulait simplement que l'OTAN ne rentre pas dans les anciennes républiques socialistes soviétiques qui étaient son territoire. C'est tout ce qu'elle voulait. Au sommet de Bucarest de l'OTAN en 2008, Sarkozy et Merkel ont ferraillé toute la nuit contre Bush, à l'époque, pour éviter que l'Ukraine et la Géorgie ne rentrent dans ce qu'on appelle le Membership Accession Process, c'est-à-dire le mécanisme qui finit par faire rentrer ces pays dans l'OTAN. Ils ont gagné au prix d'une formule dans le communiqué final qui était que ces pays seraient à terme membres de l'OTAN, etc. Ça nous a valu 5 années de tranquillité. 5 années de tranquillité, développement du commerce, etc., etc. Bon. Et puis, brusquement, effectivement, la crise ukrainienne a tout remis sur le fond. Moi, je crois qu'il est inévitable que ce révisionnisme, encore une fois que je dis modéré, soit traité dans une conférence internationale, qu'on sache ce que veut l'un, ce que veut l'autre. Mais les Russes n'ont pas d'ambition, ils ne vont pas envahir les pays, ils veulent simplement que l'OTAN ne soit pas à leurs frontières. Voilà.
Cette conférence internationale, ça serait quoi le cadre pour l'accueillir ?
Ben écoutez, l'OSCE, bien naturellement, puisque on a eu Helsinki qui a marqué...
Organisation de sécurité et de coopération européenne.
De coopération européenne. Donc la conférence d'Helsinki a trouvé un équilibre entre le maintien des frontières qui étaient de la main des soviétiques, hein, l'intangibilité des frontières, ça joue au profit des soviétiques, et un certain respect ou une reconnaissance de la valeur des droits de l'homme. Ça a conduit à l'évolution de l'Union soviétique, incontestablement. Donc il faut qu'on arrive à un système de ce genre. Il faut stabiliser les frontières définitivement en Europe.
Isabelle Lasserre.
Mais moi, je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. D'abord, je pense que la Russie est une puissance révisionniste. Quand on annexe la Crimée, on fait preuve de révisionnisme et on détruit tout l'ordre de sécurité européen qui, quand même, avait été installé dans la région. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la Russie ne veut pas seulement empêcher que les pays d'ex-Union soviétique rentrent dans l'OTAN, elle veut empêcher que les pays qui n'y sont pas encore de l'Est de l'Europe rentrent dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, à mon avis, le sujet de l'Union européenne est sans doute beaucoup plus important pour la Russie qu'il ne l'est vis-à-vis de l'OTAN. Et on n'a qu'à voir, par ailleurs, toutes les influences et les tentatives de déstabilisation de la Russie vis-à-vis d'un petit pays comme le Monténégro.
Jean de Glinassi, vous voulez ajouter ?
Juste pour dire que, au départ, la Russie ne voyait pas d'inconvénient à ce que l'Union européenne établisse des liens, mais l'histoire lui a montré que l'adhésion à l'Union européenne était simultanée à celle de l'OTAN. Donc dans son esprit, actuellement, ça peut changer, on l'a vu en Moldavie, actuellement c'est la même chose pour elle.
Brice Couturier, face à ce nouvel ordre mondial, enfin ce désordre qui va peut-être amener un nouvel ordre mondial, quel devrait être, on va dire, le jeu de l'Union européenne ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'elle tente à tout prix de maintenir le cadre institutionnel qui existe aujourd'hui ? Bah, commencer par ces grandes institutions internationales que sont l'ONU,
c'est
que sont l'OMC. Bah, ou alors est-ce qu'il faut essayer de co-construire de nouveaux cadres avec ces puissances
moi, j'ai la nostalgie de cet ordre libéral des années 80-90 parce qu'il a assuré la paix et la prospérité extraordinaire du monde. Jamais on a vu une période où autant de millions, de milliards de gens sont sortis de la pauvreté tout de même. Donc c'est une époque formidable. Et on regrettera les années Clinton et les années Obama, à mon avis. Mais bon, on est rentré dans un autre monde. Cet autre monde est un monde conflictuel, c'est un monde dur, et la seule issue pour les Européens, c'est l'unité, bien entendu. Or, ce à quoi on assiste en réalité en Europe, c'est un éclatement fantastique. On ne sait plus combien il y a de... On peut distinguer s'il y a les Européens du Nord qui s'en sortent bien, ceux du Sud qui s'en sortent mal, ceux de l'Est qui n'en ont rien à fiche. On est face à une Europe qui n'a jamais été aussi divisée, alors que nous avons besoin de l'Europe. Nous avons besoin de défendre nos frontières en commun. Nous ne pouvons pas défendre, par exemple, on parlait de l'immigration tout à l'heure, sans politique de l'immigration à l'échelle européenne, on va se refiler les immigrés chacun. Et on va surtout, ce qui est encore plus grave, se repasser le populisme. Parce qu'en fait, en expulsant les problèmes chez les uns, on crée le populisme chez les autres. Et ce qui se passe en Italie, c'est largement la faute d'Angela Merkel, la faute des Français, c'est la faute de tout le monde. Or, on va continuer comme ça, jusqu'où ? Jusqu'à ce qu'on ait des pouvoirs populistes et eurosceptiques dans toute l'Europe qui vont démanteler l'Union européenne et qui vont nous livrer un par un, petite république marchande que nous sommes, face à ces empires immenses que sont la Chine, les États-Unis, la Russie.
Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard de penser Europe alors que on fait quand même le constat, notamment dans cette émission, justement, de ce déplacement du centre de gravité international, Isabelle
Lasserre. C'est deux choses différentes. Je crois que l'Europe aujourd'hui doit se concentrer sur elle-même et essayer de ne pas exploser, de ne pas éclater, parce que je pense que la crise des migrants, pour moi, est de nature à la faire complètement exploser. Donc elle doit se recentrer, elle doit avoir une politique européenne qui soit à la fois généreuse envers les demandeurs d'asile et faire sur le contrôle des frontières, sinon on ne s'en sortira pas. Et la deuxième chose, c'est qu'elle doit vraiment construire une autonomie stratégique et une autonomie militaire. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que le sursaut auquel on assiste sur ces questions depuis quelque temps soit un sursaut conjoncturel, c'est-à-dire qu'il est lié à Trump. Donc d'un seul coup, on a peur de Trump, c'est un imprévisible, un fou, etc. Donc oui, enfin Merkel dit que l'Europe doit prendre son destin en main, etc. Si demain Trump n'est plus là, ou si par une espèce de miracle il se normalise, j'ai peur que le soufflet retombe, parce que dans cette Europe, il y a quand même une majorité de pays qui préfèrent faire dépendre leur sécurité et leur avenir des États-Unis et du parapluie américain.
Jean de Glignasti.
Moi, je partage tout à fait ce point de vue. Moi, j'ai passé 45 années de ma vie à essayer de bâtir l'Europe puissance, et je dois dire qu'effectivement, on est presque à la case zéro. Hein. Et effectivement, il y a ce sursaut, on peut essayer de l'utiliser, on peut essayer d'en faire quelque chose. Je crains qu'il ne soit que passager. L'Europe s'est fait avec des Suédois, des Néerlandais qui n'ont pas du tout envie d'être protégés par la France, des gens qui croient encore à l'OTAN, des Allemands qui tâtonnent sur le bord de la puissance mais qui croient encore à l'OTAN, etc. Donc tout est à prendre à zéro. Et ça va être très dur, mais je ne perds pas espoir. Et de toute façon, il y a un point qui est très clair, qui a été souligné d'ailleurs par le président pendant sa campagne, qui a réussi à faire aimer l'Europe, ce qui est quand même rare, c'est que l'Europe doit protéger. Or, en ce moment, elle ne protège pas. Et c'est ça l'enjeu principal des prochaines années.
Merci Jean de Glignasti, merci Isabelle Lasserre et Brice Couturier pour cette discussion que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. Isabelle Lasserre, donc on vous retrouve au mois de juillet tous les week-ends. Brice Couturier, on vous retrouve dès la semaine prochaine à 11h53 sur France Culture. Et Jean de Glignasti, on vous retrouve aussi sur nos ondes pour la prochaine invitation. Merci. En tout cas, merci également à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Philippine Lebray et Prune Saez, émission réalisée par Jenab Sangaré, avec à la prise de son Nadège Antonini et Cédric Châtelut.